Paris. Et tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques présenté par Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Juliette, merci. Les 8h10 à Port-au-Prince. Le choléra en Haïti, jamais vraiment parti depuis 2010, mais la nouvelle flambée des cas depuis 2 mois inquiète. Les enfants, notamment, sont les plus touchés. Résultat de la situation et les crises qu'Haïti traverse. Témoignage d'un maire à suivre, on en parlera avec Franz Duval du Nouvel East. Le sucre dominicain sanctionné par les États-Unis. Au Brésil, Jair Bolsonaro et son parti, qui n'auraient sans doute pas dû contester le système de vote. On vous expliquera pourquoi tout sera. Ce sera avant de vous retrouver. Benoît Ferrand pour le journal de la première. On est en Martinique aujourd'hui.
Avec le Conseil des jeunes citoyens qui a été installé hier dans les locaux de la collectivité territoriale.
Et puis bien sûr le mondial de foot aussi au Qatar. Le Brésil est en lice aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue à tous. Près de 12 000 cas suspects selon les derniers chiffres officiels. 2 mois après sa résurgence en Haïti, le choléra se répand partout dans le pays avec, dans la tête bien sûr de chacun, la flambée des années 2010 qui a fait plus de 10 000 morts. Aujourd'hui, on est encore très loin de ces chiffres, mais tout de même déjà plus de 200 décès officiellement enregistrés. L'ONU s'inquiète car les enfants sont parmi les plus exposés. Ils représentent environ 40% des cas selon l'UNICEF. D'un point de vue géographique, les zones rurales sont elles aussi très affectées car c'est là que c'est le plus dur d'intervenir pour les services sanitaires. À Kenskov, commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Port-au-Prince, là, au moins déjà 25 personnes sont mortes. Rosemary Madjanis.
À Kenskov, le choléra prend des proportions alarmantes, déplore son maire. L'épidémie a commencé à se propager dans la commune après les troubles sociaux du mois de septembre dernier. Plusieurs sections communales sont touchées par cette maladie contagieuse. Pour Massillon Jean, la situation est particulièrement critique dans la localité de Bellefontaine.
La situation est difficile. Environ plus qu'une centaine de cas suspects.
La situation est très compliquée. On a déjà recensé plus d'une centaine de cas suspects et enregistré 25 morts dans la commune. Des 5 sections communales, Bellefontaine est la plus touchée avec 17 morts. La situation s'est détériorée en raison du manque d'information de la population. Des problèmes liés aux infrastructures routières empêchent l'intervention immédiate dans les zones reculées.
Une situation qui pourrait empirer si rien n'est fait.
Nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire dans la commune. Kenskov ne dispose d'aucun centre de traitement du choléra. Les malades sont reçus à l'hôpital de Fermat et au centre de santé du centre-ville. Ces 2 centres n'ont pas une forte capacité d'accueil. Si les médecins diagnostiquent le choléra chez une personne, ils l'envoient vers d'autres centres comme Geskio, Médecins sans frontières et Hôpital Saint-Luc de Tabar qui sont capables d'assurer la prise en charge.
Face à la flambée des cas de choléra, plusieurs actions ont été prises.
Une cellule de gestion du choléra est déjà en place dans la commune. Cette cellule est composée des représentants de la mairie, de la protection civile et des agents de santé communautaire. Nous avons aussi mis en place, de concert avec les agents de santé de la commune, des comités locaux de protection civile dans les sections communales, ce qui nous permet de distribuer des kits sanitaires et hygiéniques dans la commune.
Massillon Jean a sollicité l'aide de l'UNICEF qui devrait permettre à la commune de trouver du chlore, du sérum oral, des gants et des masques pour faire face à la maladie. Le maire lance également un appel à la vigilance à l'égard de la population afin qu'elle se protège contre la maladie.
Et pour l'heure, l'ONG Médecins sans frontières est l'une des rares à fournir de l'aide humanitaire internationale en Haïti. Elle alerte, elle aussi également, il faut mobiliser davantage d'organisations et de bailleurs de fonds, mais également mettre les ressources essentielles, telles que la vaccination, à la disposition des équipes médicales et de la population, explique MSF. Combattre le choléra ne se fait pas au bon rythme. Ça, c'est vous qui l'écrivez aujourd'hui dans votre éditorial de ce jeudi. Franz Duval, bonjour.
Bonjour, Michael.
Rédacteur en chef du Nouvel East en ligne avec nous. La normalité dans un pays normal se fait toujours désespérément attendre, dites-vous, Franz.
Tout à fait, c'est la situation en Haïti, plus de 2 mois après les troubles qui ont commencé en septembre, quand le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry avait augmenté de façon très significative les prix des produits pétroliers. Il y a eu des manifestations, des blocages, un épisode encore de pays loc, beaucoup de victimes dans tous les camps. Et aujourd'hui, le pétrole est revenu, les gangs se sont un peu calmés, le terminal de Vao est libéré, Mais il y a toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes pour vivre et fonctionner normalement en Haïti.
Acheter de l'essence relève du parcours du combattant, écrivez-vous. Moins de 20% des élèves, par ailleurs, on en parlait hier, ont repris le chemin de l'école et la vie économique aussi est au ralenti, dites-vous, France, dans votre éditorial. Et au milieu de tout ça, une question que l'on se pose aujourd'hui. Où se trouve Michel Martelly, l'ancien président haïtien qui a été sanctionné par le Canada? On en a beaucoup parlé pour ses liens avec les gangs. Selon les rumeurs, à peine rentré en Haïti, il serait déjà reparti, France.
Au niveau du nouveliste, on a vu passer les rumeurs, nous aussi, on n'a pas de confirmation. Le secrétariat officiel du président Martelly n'a pas fait de communication. Ils n'ont pas protesté contre les sanctions, ils n'ont absolument rien dit. Et on a vu qu'il serait reparti, qu'il aurait laissé Haïti, mais pour le moment, on ne peut pas confirmer. Il faut dire qu'avant les sanctions canadiennes, le président Martelly était sous des sanctions haïtiennes. Parce que les communautés haïtiennes dans toute la diaspora s'étaient opposées à ce qu'ils jouent dans leurs villes respectives. Et c'était une espèce de sanction. Ça fait des mois et des mois, chaque affiche, il est boycotté, il est contesté. Et à la fin, les affiches se sont effacées. Le musicien ne jouait plus. Mais maintenant, c'est l'homme politique qui a des problèmes avec le Canada en particulier. Et pour le moment, c'est ça, mais on n'a pas d'autres informations.
Et on ne sait pas où il se trouve, donc, aujourd'hui.
Au niveau du nouveliste, non.
Visé par ces sanctions aussi, France, l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe, qui estime que le Canada a été induit en erreur.
Alors hier, sur La Voix de l'Amérique, une radio américaine, l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe a donné des explications. Il a dit que le Canada a été induit en erreur. Il a expliqué qu'il n'avait aucune espèce de relation avec son ancien président Michel Martelly depuis la mort de Jovenel Moïse, en disant que le président Martelly n'avait pas assez dénoncé la mort de celui qu'il avait mis au pouvoir, Jovenel Moïse. Il a aussi expliqué que lui, pendant son mandat de premier ministre de plus de 30 mois, il avait surtout combattu les gangs, qu'il avait essayé de donner des moyens armés, il avait acheté des armes pour la police nationale d'Haïti, et qu'en aucune sorte, on peut le mettre dans le même panier que d'autres qui ont été sanctionnés. Laurent Lamothe est celui qui a le plus de présence médiatique. Il dit avoir pris des avocats au Canada pour prouver qu'il n'est pas complice ni coupable. Et surtout, il demande au Canada de présenter les preuves de ce qu'on lui accuse.
Le Canada qui a été, hier, félicité par Brian Nichols pour ses sanctions. Mais le secrétaire d'État adjoint des États-Unis ne dit pas si Washington compte faire de même.
Alors, dans cette histoire Canada-États-Unis, on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui se joue. Les États-Unis ont beaucoup poussé pour que le Canada prenne la tête d'une force armée et vienne en Haïti. Et maintenant, le Canada pousse beaucoup avec des sanctions qui, s'ils n'embarrassent pas les États-Unis, mais quand même met les États-Unis dans une situation inconfortable, parce que les États-Unis doivent réagir, parce que les personnes qui sont visées vivent aux États-Unis, ont des biens aux États-Unis, sont des amis des États-Unis. Et pour le moment, les États-Unis n'ont pas beaucoup réagi, surtout aux dernières sanctions américaines et canadiennes. C'est un jeu qui se joue, on ne sait pas la nature du jeu, sauf qu'en disant qu'il félicite le Canada, implicitement, les États-Unis appuient aussi ces sanctions. Est-ce qu'il y a une coordination? Est-ce que c'est un jeu? On ne sait pas pour le moment, dans une affaire haïtienne où les deux ne veulent pas mettre les pieds, mais où les deux veulent avoir une force de pression.
Et voilà, donc on en reparlera sans doute dans les prochains jours, à voir si cela bouge du côté de Washington. Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouveliste, avec nous. Merci beaucoup.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Pas de sanctions donc encore au sujet d'Haïti, mais Washington en revanche a bien décidé de viser un autre pays. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Ce pays, c'est la République Dominicaine, la voisine d'Haïti, et son entreprise sucrière Central Romana Corporation. C'est elle qui est particulièrement visée, Stéphanie, pour avoir eu recours au travail forcé.
Ouais, les coupeurs de canne vivent dans des logements insalubres, sans eau ni électricité. Ils sont menacés par des gardiens armés et masqués. Ils sont soumis à des horaires de travail excessifs et leur salaire est souvent retenu de façon arbitraire. Et la plupart de ces travailleurs dans les exploitations de canne à sucre sont haïtiens. Énumère Listin Diario pour ce journal dominicain. Les sanctions américaines ne sont d'ailleurs guère une surprise. Cela fait des années que Washington rappelle la Central Romana à l'ordre.
L'entreprise qui n'a désormais donc plus le droit d'exporter sa production sur le sol américain.
Et c'est un vrai manque à gagner, Michael. La Central Romana produit à elle seule 59% du sucre de la République dominicaine, dont elle exporte chaque année 200 millions de livres aux États-Unis, rapporte rapporte le New York Times. La société appartient au Fanjul, une famille d'exilés cubains bien connue à Washington d'ailleurs, puisqu'avec leur fortune issue de l'industrie sucrière, les Fanjul financent des campagnes électorales américaines, aussi bien démocrates que républicaines. Les Fanjul sont d'ailleurs des proches des Clinton, mais aussi des Bush. Et le New York Times de conclure, pas étonnant que la sanction contre leur entreprise, la Central Romana, a été âprement débattue au Capitole, mais elle a finalement été imposée.
Est-ce qu'il y a des réactions, Stéphanie, en République dominicaine ?
Et oui, l'entreprise elle-même s'est dit très déçue d'être visée par les autorités américaines et explique avoir entrepris des efforts considérables pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses employés, rapporte le journal Hoy. De son côté, Diario Libre dénonce une campagne de dénigrement menée par les Américains à l'encontre de la République dominicaine. Et l'éditorialiste s'interroge, alors qu'en Amérique latine, les ennemis de l'Empire sont arrivés au pouvoir dans plusieurs grands pays. Pourquoi les États-Unis insultent-ils l'un des rares alliés qui leur reste dans la région ?
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo.
Il a joué, il a perdu et il va le payer cher. Au Brésil, le parti de Jair Bolsonaro est débouté de sa tentative d'invalider le résultat du second tour de la présidentielle du 30 octobre dernier, Stéphanie.
Ouais, il va même payer très cher, Michael, l'équivalent de 4,2 millions de dollars américains. C'est le prix de l'amende infligée par le Tribunal Supérieur Électoral au parti libéral, titre La Folia de Sao Paulo aujourd'hui. Les bolsonaristes, on en a discuté hier, vous vous souvenez, avaient demandé mardi l'invalidation des voix qui provenaient de certaines urnes électroniques fabriquées avant 2020. Des urnes qui, selon le parti de Jair Bolsonaro, présenteraient des défauts, ce qui aurait empêché le président à remporter sa réélection au second tour. Le tribunal supérieur électoral n'a non seulement constaté l'absence totale de preuves, mais estime de plus que les arguments présentés sont absolument faux et ne visent qu'à encourager les mouvements criminels et antidémocratiques, rapporte de son côté le quotidien O Globo.
Et voilà pour le Brésil. On prend à présent la direction du Chili, bloqué par des barrages routiers depuis plusieurs jours. Les ports sont aussi concernés, je le précise. Stéphanie, les camionneurs réclament une baisse significative du prix des carburants et le gouvernement de gauche, lui, entend mettre fin à ce mouvement.
Ouais, face aux camionneurs, le gouvernement hausse le ton, titre El Mercurio. L'équipe du président Gabriel Boric a engagé des poursuites en vertu de la loi sur la sécurité intérieure de l'État, rapporte le journal. Selon la Tercera, au moins 13 plaintes ont déjà été déposées. Les forces de l'ordre ont commencé hier à dégager certaines routes. Plusieurs chauffeurs ont été arrêtés. Le gouvernement chilien qualifie d'illégal le blocage des principaux axes routiers qui a empêché ces derniers jours l'approvisionnement des supermarchés dans plusieurs régions du pays, écrit El País. Des produits frais ont été perdus en raison de l'interruption de la chaîne de froid.
Les exportateurs aussi tirent la sonnette d'alarme.
Absolument, notamment l'accès au port de Valparaíso est bloqué. Or, c'est de là, Michael, que partent des fruits chiliens destinés aux consommateurs étrangers, explique El País. Face aux exigences des camionneurs, le gouvernement de Gabriel Boric avait lâché de lest en début de semaine en promettant un gel du prix du diesel pendant 3 mois. Une proposition insuffisante, estiment plusieurs syndicats routiers qui réclament une baisse de 30% du prix des carburants pendant 6 mois, ce qui coûterait 6,5 milliards de dollars aux contribuables chiliens, rétorque le gouvernement qui y voit un abus inadmissible. L'exécutif et les syndicats doivent se rencontrer à nouveau ce jeudi au palais présidentiel.
Enfin, on termine ensemble, Stéphanie, au Panama où se tient jusqu'à la fin de cette semaine le sommet sur le commerce international des espèces menacées.
Oui, et plus de 180 pays participent à ce rendez-vous et ils s'apprêtent ce jeudi, Michael, à procéder à un vote historique, s'exclame le journal El Financiero. Pour la première fois, la communauté internationale pourrait protéger un grand nombre d'espèces de requins. Le sommet devrait restreindre considérablement le lucratif commerce mondial de leurs ailerons. Alors, cette initiative a été pourtant très vivement débattue dans différentes commissions de ce sommet, rapporte le journal costaricain. Notamment, le Japon et le Pérou ont tenté de réduire le nombre d'espèces de requins à protéger. Leurs ailerons sont le principal ingrédient d'une soupe très populaire et le prix peut monter jusqu'à 1000 dollars le kilo, Michael.
Stéphanie Schuller pour la presse, merci. Il a promis de dédier son premier but du mondial à Bolsonaro, hein, dont on parlait tout à l'heure. Neymar, le footballeur brésilien, fervent soutien de dirigeants d'extrême droite, entre en piste ce jeudi au Qatar. Le Brésil affronte la Serbie ce soir pour son premier match de groupe, une Seleção qui fait figure ces derniers mois de grande favorite pour remporter un titre qui lui échappe depuis 20 ans, Olivier Pron.
20 ans que les Brésiliens restent bloqués sur la Penta, la cinquième étoile de champion du monde, et rêvent de décrocher la Hecha. Un effectif de feu emmené par un Neymar en pleine forme, une série de 15 matchs sans défaite depuis le titre olympique de Tokyo il y a un peu plus d'un an. Cette sixième étoile les attend, il est temps. Et le capitaine Thiago Silva avance confiant.
Tous les joueurs sont en très bonne santé et concentrés sur ce qu'ils doivent faire. Je demande aux fans de nous faire confiance. Nous sommes prêts à faire une grande Coupe du Monde. Bien sûr, le titre est encore loin, mais le rêve est gratuit.
Rêver, éveillé, c'est le cas de la pépite peroxydée de Tottenham, Richarlison, maillot numéro 9, sur le dos celui d'un certain Ronaldo, 15 buts en Coupe du Monde.
Cela a toujours été mon rêve de jouer une Coupe du Monde et ce moment est arrivé. Le professeur Tite me fait confiance et m'a donné le maillot numéro 9. Il sait que je suis un gars qui marque beaucoup de buts. Ce maillot est très lourd à porter, c'est celui de Ronaldo qui a marqué le plus de buts en Coupe du Monde et c'est pourquoi je veux battre ce record.
En commençant par marquer face à la Serbie, rendez-vous à 19h, temps universel. Olivier Pron, Elcio Ramallo, Doha, RFI.
Et avant cela, c'est l'Uruguay qui joue en ce moment contre la Corée du Sud. 26 minutes de jeu et un score toujours vierge, 0 partout.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Le Conseil des jeunes citoyens a été installé hier dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique.
Il comportera 22 membres. Il comporte 22 membres de 16 à 25 ans, désignés pour un mandat de 2 ans. Ces jeunes feront des propositions aux élus de la CTM et piloteront des projets. Je vous propose d'écouter l'un des membres de ce Conseil citoyen, des jeunes citoyens, Indira. Et puis juste après, le président de la CTM, Serge Letchimi, tous les deux au micro de Pierre-Yves Honoré.
C'est une sensation assez particulière en fait, parce qu'on a l'opportunité de se retrouver dans la salle en fait, qu'on voit souvent à la télé. Et là, de voir en fait, qu'on a la chance d'y siéger, ben, c'est un plaisir. Pour moi, en fait, c'est l'opportunité de pouvoir passer de spectateur à acteur en fait, pour la jeunesse martiniquaise et le développement aussi, que ce soit dans tous les secteurs. Mais après, moi, j'ai envie de casser du coup, en fait, ça, parce qu'en fait, la politique n'est pas forcément inclue dans nos habitudes culturelles, même familiales. Et en fait, moi, j'ai envie de casser ça et en fait, de voir autre chose et d'apprendre autre chose pour inspirer les générations futures.
Nous avons un drame chez nous. On a perdu 30 000 personnes au cours des 10-12 dernières années, dont beaucoup de jeunes. Si on ne fait rien, en 2030, on sera à peu près 320 000 personnes. La Martinique est en plein déclin. Donc il nous faut absolument créer de l'attractivité, rassurer, donner du pouvoir, des possibilités à ces jeunes qui vont nous dessiner des projets, qui vont donner des avis. On va les saisir sur plein de sujets.
La Guadeloupe maintenant, avec la mise en place d'une autre structure, un projet visant à favoriser la résilience guadeloupéenne face aux conséquences du changement climatique. Ça s'appelle Life Adapt Island, et oui, et c'est piloté par le Grand Port Martinique avec des fonds européens. Éric Bagassien.
Les actions de ce projet qualifié d'environnemental innovant porte sur la préservation de trois écosystèmes littoraux fragiles, les récifs coralliens, les mangroves et forêts marécageuses et les herbiers marins. Rappelons qu'à elles seules, les Antilles apportent quelque 80% de sa biodiversité à la France. Ce projet environnemental, porté par le Grand Port Caraïbe, vise à mobiliser la société civile, les croisiéristes, étudiants et plus généralement les scolaires à la protection des écosystèmes en question. Un comité scientifique est mis en place. Objectif, identifier les bonnes pratiques, rédiger des protocoles de restauration des espèces ciblées et leur diffusion dans les territoires et le reste de la région Caraïbe.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Claude Battista, qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver sur RFI.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.
Vous souhaitez développer vos relations